Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Florent de Carsozon. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Rassemblement National. Il est également membre de la commission Climat, Transition et Biodiversité. Il a fait la route pour être au micro de Bretagne 5 en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour Florent de Carsozon.
Oui, bonjour à tous. Je suis très content d'être là.
Eh bien, écoutez, nous, on est très content de vous avoir au micro pour pouvoir parler de politique ce matin, parce que c'est aussi le but de cette interview de la matinale. Beaucoup de choses en politique, beaucoup de choses au Rassemblement National avec ce nouveau président qui sera élu dans quelques temps. Est-ce qu'il était temps de tourner la page Marine Le Pen ?
Je crois que c'est pas le but de l'opération. D'abord, le Rassemblement National est un parti que je trouve apaisé. Mmh. Apaisé par son résultat, par sa victoire législative.
89 députés.
Et avec une mission à court terme à remplir, une mission d'opposition à l'Assemblée nationale contre les projets mortifères de Macron. Et donc, tourner la page, non. Changer de patron pour le parti, oui, pour laisser à Mme Le Pen faire son travail à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas rien. Et on a deux candidats. Il y a deux candidats. L'un, c'est la jeunesse. L'autre, c'est un peu plus la tradition. Ce sont deux personnes de qualité que tout le monde aime bien. Et les gens du parti vont choisir dans une élection qui... Bon, il y a eu un peu de dérapage au début, parce que les équipes de l'un et l'autre sont un peu fritées, bon, voilà, au café, etc. Mais c'est fini, tout ça. Je veux dire, les gens sont en train de voter. On a reçu Jordan Bardella en Bretagne au milieu des fumigènes et l'autre jour à Rennes. Louis Alliot vient à la fin du mois dans le Morbihan, et les adhérents du RN votent tranquillement... me demande mon avis, que je donne ou que je donne pas. Mais je veux dire, c'est un choix de génération. Mmh. Un vrai choix de génération. Deux personnes de qualité, un choix de génération. Il faut comprendre que le choix Bardella, c'est un choix extraordinaire, d'une certaine façon, puisque aucun parti n'a jamais confié son avenir à quelqu'un qui est un jeune, pour ne pas dire un gamin, merveilleux, avec énormément de qualités, mais pour beaucoup de gens et dans tous les partis, Jordan Bardella serait trop jeune. Mmh. Ça n'est pas le cas. En tout cas, on va voir quels sont les résultats, mais j'ai l'impression que les gens du Rassemblement National votent aussi pour lui, comme pour Louis Alliot, et le choix sera fait, et dans le calme. Dans le calme et dans la bonne humeur, voilà.
Vous avez fait votre choix, je ne vous le demande pas à l'antenne ce matin.
Non, mais moi, je n'ai pas à faire mon choix parce que je ne suis qu'un invité au Rassemblement National, je ne suis pas adhérent.
Ah, voilà,
Et donc, je suis à la fois aux premières loges, puisque tout le monde me parle comme si j'étais de la maison, et je regarde ça avec intérêt et sympathie, puisque c'est un process agréable et intéressant, voilà.
Alors, on va parler de politique aussi, la politique du moment avec cette crise, ces crises que l'on subit, crise qui, en tout cas, atteigne le pouvoir d'achat des Français, des Bretons. Aujourd'hui, on a du mal à mettre de l'essence dans les voitures, on a les coûts d'énergie qui augmentent. On sait que le Rassemblement National est très sensible à ces questions de pouvoir d'achat.
La campagne de Marine Le Pen était centrée sur le pouvoir d'achat. Donc, je dirais que Marine avait un peu prévu quand même ce qui se passe aujourd'hui. Et elle n'a cessé de répéter ses propositions sur la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, et en particulier l'énergie, la baisse de la TICP, etc., etc. Donc, le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations du Rassemblement National, comme il est au centre des préoccupations des Français. Et donc, c'est là où nous nous retrouvons, pour une action commune, qui, j'espère, à la fin du jour, sera payante, c'est-à-dire qu'on arrivera à baisser ces taux. Et il y a un certain nombre de pays européens qui ont commencé à le faire. Faisons-le. Allez, la majorité, pseudo-majorité macronienne, là, jetez-vous à l'eau, faites quelque chose pour les Français.
Il y a aussi les réformes de la retraite, réforme des retraites et réforme de l'assurance chômage. Là aussi, le gouvernement fait fausse route, selon vous ?
Écoutez, je ne sais pas, moi je n'ai pas encore assisté au débat à l'Assemblée nationale, ce que je ferai d'ailleurs, j'écouterai.
On prévoit beaucoup d'amendements. Hein.
Je pense que le gouvernement veut toujours agir avec autorité, si vous voulez. Or, il est dans un nouveau paradigme, avec une opposition qui se structure, et il faut qu'il accepte de travailler comme on travaille autour d'une table, en partageant nos avis. Il faut qu'il accepte de travailler dans le calme, au lieu de brandir le 49-3, la dissolution, la colère du matin, la colère du soir. Il faut arrêter tout ça. Il faut travailler ensemble pour arrêter à avoir des positions communes, pour arriver à avoir des positions communes sur ces questions, qui sont des questions effectivement assez brûlantes. Mais brûlantes parce que le gouvernement les met sur la table. Donc je veux dire qu'il se calme et qu'il écoute ce que l'opposition a à lui dire.
On voit une opposition, en tout cas du côté du Rassemblement national, une opposition plutôt calme, plutôt constructive, alors qu'on a l'impression que du côté de la NUP, par exemple, voilà, c'est plus en colère, c'est plus visible. Pour autant, est-ce que ces deux oppositions se retrouvent sur des sujets communs ?
Ben, j'ai pas l'impression qu'elles se retrouvent, justement. C'est ça ce qui est un peu dommage, c'est que... je pense qu'il y a un problème à la fois d'opinion, puis un problème culturel. Moi, je connais des gens de la NUPES pour lesquels j'ai de la sympathie. Bon, peut-être que ça s'arrangera, mais pour le moment, c'est... Peut-être aussi que la NUPES est un peu agitée par Mélenchon, par ses cris, par... et donc, finalement... ils n'arrivent pas à réellement se mettre au boulot, quoi. Mmh. Mais ça va peut-être venir, on va voir. Bon, on va voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Mais à la rentrée, ça ne s'engage pas très bien, voilà.
Voilà, on voit déjà une rentrée compliquée à l'Assemblée nationale. Alors, elle n'est pas moins compliquée aussi au Conseil régional. Hein. Je le disais tout à l'heure, vous siégez au Conseil régional de Bretagne, dans la commission climat, transition et biodiversité. On en parle beaucoup du climat aujourd'hui, avec cet été qui a été caniculaire. Là aussi, en termes de propositions, Florent de Kersauzon, comment se situe le Rassemblement national ?
Le Rassemblement national, il fait comme tout le monde, il regarde. Il regarde et il a une capacité d'écoute qui est très grande. Nous ne sommes pas sectaires. Nous pensons qu'effectivement, il y a probablement une évolution du climat, probablement que cette évolution est due en partie à l'activité humaine. C'est quelque chose qui ne me surprend pas parce que j'ai écrit, quand j'étais en grande école, en 1968, un papier sur l'influence des humains sur le climat. Donc si vous voulez, quand on me parle de ça aujourd'hui, là, de dire, bon, oui, j'avais pensé en octobre 1968, j'avais écrit un papier là-dessus, en économie politique, à l'ESSEC. Donc si vous voulez, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que, très clairement, c'est pas la France et c'est pas la Bretagne qui va résoudre le problème du monde. Hein, donc, il est inutile de nous facturer les émissions d'oxyde de carbone des Chinois ou même plus près des Parisiens. Donc, la Bretagne n'a pas de rôle là-dedans. C'est peut-être là où... Au Conseil régional, on va se séparer de la majorité là-dessus. C'est-à-dire que nous, on considère que les ressources du Conseil régional doivent être mises à la solution des problèmes des Bretons et non pas dans la solution des problèmes des Chinois, vous voyez. Donc, quand on nous parle du climat en Bretagne, bon, effectivement, il a fait chaud cet été. On a déjà eu chaud comme ça autrefois, d'ailleurs, hein, une ou deux fois. Moi, j'ai des souvenirs de canicule. Bon, ben... Ok, ça passe, voilà. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons résoudre le problème du climat. Alors occupons-nous des problèmes des Bretons et occupons-nous, par exemple, des algues vertes.
Alors voilà, j'allais y venir parce qu'on en parlait ce matin d'ailleurs dans notre rendez-vous de 7h20 avec Annie Le Guillou qui est coprésidente de Halte aux Marées Vertes qui aujourd'hui demande qu'il y ait plus de moyens mis à disposition.
Non mais là, il a raison. Il faut qu'il y ait plus de moyens. Bon, de quoi on parle ? On parle d'abord d'un problème très compliqué que finalement on ne maîtrise pas. On sait que les algues vertes se nourrissent d'une part des nitrates et d'autre part des phosphores. Malheureusement, le phosphore, il est dans les sédiments, il se rejette progressivement et donc il y en aura. Ça. Donc la doxa, c'est la seule façon de réagir sur les algues vertes, ce sont les nitrates. Très bien. Et donc, comme les nitrates viennent en grande partie de l'agriculture, c'est sur les nitrates qu'il faut jouer. Là-dessus, on est assez d'accord. La vraie question, c'est qu'il y a une résilience des systèmes qui est énorme, que la plupart des nitrates qui arrivent à la mer arrivent par les nappes phréatiques qui eux-mêmes se déversent dans les ruisseaux, et que tout ça prend des années. Donc il y a une résilience énorme des systèmes. Il y a des endroits où ça va mettre 2 ans, des années où ça va mettre, des endroits où ça met quelques mois parce qu'il y a du ruissellement, mais aussi dans la plupart des cas, ça vient par la nappe phréatique, donc c'est très très long. Et donc, finalement, tous les efforts qui ont été faits, on ne sait pas mesurer encore réellement ce qui se passe. Voilà. Et on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Moi, mon avis, c'est que c'est une question d'au moins une génération, c'est 20 ou 30 ans. Mais que si on veut aider les agriculteurs à changer de modèle, eh bien, il faut les payer pour ça. Il faut les payer, il faut leur donner les moyens. Voilà.
Oui, parce qu'il y a une volonté quand même de...
Il faut leur donner les moyens. Écoutez, il y a 3000 agriculteurs concernés. 3000, enfin 2752 sur les bassins versants exactement. 3000. Alors moi, je vais vous dire, 3000 agriculteurs qui eux-mêmes sont dans des situations économiques difficiles et à qui on demande de changer de modèle, ces 3000 personnes, il faut qu'on les aide. Ils ne peuvent pas changer de modèle par eux-mêmes. Et moi, je vous dis ce que ça va coûter. Ça va coûter 50 millions par an, au moins 3000 personnes, avec tout leur environnement, les conseils, les machins, les conseils des communautés de communes, etc. Ça va coûter une fortune. Et l'État et la région doivent casser leur tirelire s'ils doivent résoudre le problème. Et ils doivent casser d'autant plus leur tirelire qu'ils rentrent dans un schéma qui est la carotte, comme disait West France hier, et le bâton, très bien, ben le bâton, si tu veux, d'abord pour la carotte, il faut que les conditions soient les plus léniantes et les plus faciles possibles pour que les agriculteurs aient accès à ces aides, et ensuite le bâton, il faut pas que le bâton soit trop méchant, c'est-à-dire il faut que les gens aient le temps de s'adapter progressivement au nouveau modèle qu'on leur demande d'adopter. Et pour ça, si vous voulez, nous battrons pour les agriculteurs, nous nous battrons pour que on ne se retrouve pas dans des situations dramatiques hein, et qu'on n'ait pas de nouveaux suicides d'agriculteurs parce qu'on les aura mis dans des impasses économiques et psychologiques. On va se battre pour ça. On est d'accord pour se battre contre les algues vertes, mais que la région mette ses moyens. Or, aujourd'hui, on a un plan de la région qui n'est qu'un plan qui est le suivi du plan de l'État, où on a
c'est
mis
le nouveau,
les enveloppes.
Pour nos auditeurs, c'est le nouveau plan algues vertes hein, qui va
être
discuté.
Oui, mais c'est un plan algues vertes qui est, disons, écrit par l'État, et dans lequel, aujourd'hui, nous n'avons pas les enveloppes, et dans lequel la région, aujourd'hui, ne casse pas sa tirelire. Elle ne fait pas d'efforts. Moi, nous sommes favorables à la révision complète du dossier qui est proposé par la région.
Alors, dossier complexe, parce qu'il faut aussi permettre, vous le disiez à l'instant, aux agriculteurs de pouvoir survivre ou de changer. Aujourd'hui, on va beaucoup vers l'agriculture bio. Est-ce que c'est la solution, selon vous?
Écoutez, j'en sais rien. Je crois qu'entre le bio... Personnellement, moi, je m'en fous. Hein. J'achète des produits directement à mes agriculteurs et je vois qu'ils ont bonne mine. Et j'ai pas trop mauvaise mine, vous voyez. Je mange des produits qui viennent de l'agriculture. Je suis un localiste. Je vais dans les fermes acheter mon beurre, acheter mon fromage blanc et ça me convient très bien.
Le circuit court, peut-être, c'est ça aussi
la
solution.
Mais par contre, qu'on essaye de faire des modèles plus vertueux, des modèles avec moins d'intrants, à condition que ces modèles se révèlent quand même relativement productifs et permettent aux agriculteurs de vivre, pourquoi pas?
Donc, garder une forme de productivité, mais plus vertueuse, c'est ça l'idée?
Une productivité plus vertueuse, il faut bien comprendre que les agriculteurs sont à la fois les coupables et les victimes de tout un système productiviste. Bon, mais ce sont nos frères, et on ne va pas dire à nos frères, écoute, tu vas changer de système, Hein? Tu vois, t'es agriculteur, mais tu vas devenir éco-socio-agriculteur, et puis t'as pas d'argent pour le faire, bah tant pis. Voilà. On va pas leur dire ça. On va leur dire, on va t'accompagner, on va faire en sorte de rentrer dans les cercles vertueux, et on verra si ça marche. C'est-à-dire qu'on verra si, dans quelques années, on obtient de nouveau une baisse des algues vertes, ce qui n'est pas certain. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que c'est des vrais paris, vous voyez, dans le sens que... regardez ce qui s'est passé cet été. Cet été, les rivières côtières ont été à sec. Mmh. Et donc, il y a eu finalement relativement peu d'intrants dans les baies. Ça n'a pas empêché les algues vertes de prospérer. Alors, on en a eu moins. Mmh. Il y en a eu moins, je crois, que sur certaines baies, on en a récolté... à peu près 30% de moins, et donc globalement, on a dû en récolter peut-être, je sais pas, 6, 7, 8 000 tonnes de moins. Donc, hein, pas mal le moins. Mais, à contrario, on en a quand même récolté plus de 20 000 tonnes. Et donc, ça veut dire que sans les intrants venant des agriculteurs, elles ont quand même prospéré. Mmh. Et donc, si vous voulez, tout de suite, les stations d'épuration, évidemment, le phosphore qui restait dans les sédiments, etc., etc. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Je dis ça modestement. Ça fait 2 mois que je travaille sur ce dossier et je dirais que j'ai l'impression que avant que je puisse préparer ma thèse sur le sujet, j'ai encore 1 an de travail.
Voilà, alors on espère une thèse. Hein, ça sera intéressant à lire, justement. On a aussi, Florent de Kersauzon, d'autres problèmes en Bretagne, qui sont les problèmes des transports. On en parle beaucoup aujourd'hui des transports en Bretagne. Alors, c'est peut-être pas votre domaine directement, mais ça participe aussi de l'économie, mais à la fois aussi du portefeuille des Bretons, des Bretonnes, qui aujourd'hui est très mis à l'épreuve par la crise économique et la crise des carburants, entre autres. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce que la région, là aussi, dans ce dossier, va assez loin ?
Écoutez, je ne sais pas très bien ce que la région peut faire. On peut faire de nouveaux efforts pour le train, on peut faire de nouveaux efforts pour le bus, mais il reste que nos contemporains, en Bretagne, dans la plupart des circonscriptions rurales, ils vont au boulot en voiture. Mmh. Voilà, bon, boulot en voiture. Et à des proportions du genre 70-80%. Mmh. Hein. Et donc, il n'y a pas de... Bien sûr, on peut à la marge faire des TER plus efficaces, plus nombreux, etc. Faire des lignes de bus avec des meilleurs arrêts, etc. On peut faire ça. Mais il reste que la voiture va rester pour nos concitoyens qui aiment l'habitat dispersé parce qu'ils aiment leur propre lever de soleil et leur propre coucher de soleil. Ils aiment être au bout du bout, voilà. Ils aiment être au bout du bout. Ça les regarde. Mais évidemment, ça a un prix. C'est la bagnole pour papa, la bagnole pour maman pour aller travailler ou pour aller chercher les enfants à l'école. Et à la fin du jour, du carburant à mettre dans les réservoirs.
Est-ce qu'il faut changer le carburant finalement ? Est-ce qu'il faut aller vers les énergies nouvelles ? Alors on pense évidemment au biocarburant, on pense à l'hydrogène.
Oui, c'est très bien le biocarburant, bien sûr. Mais si vous voulez... On parle du carburant. Nous, on a demandé à la région de diminuer sa part de taxes sur les carburants, la TICP, avec ses petits montants, hein, bien sûr. Mais rien pour le symbole, elle ne l'a pas fait, vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, la région, finalement, Chesnay-Girard, il ne s'intéresse pas tellement au portefeuille des Bretons. Voilà, ouais. On lui dit, donne-nous 1 ou 2 centimes par litre. Oh ben non, moi j'en ai besoin. Pour donner mes subventions à mes copains, on va pas faire ça. Ben non, on aimerait bien quand même que ça soit fait différemment, voilà.
Alors voilà, ça augure aussi de ma prochaine question. Je le disais, la rentrée au Conseil régional de Bretagne est assez tendue cette année. On a cette affaire Claire Desmarre également, cette plainte qui a été portée par une élue.
Non mais l'affaire Desmarre, c'est une plaisanterie, je veux dire. Desmarre, elle prétend, c'est l'égalité homme-femme, voilà. Mmh. Voilà des femmes qui veulent le code des hommes. Et qui traite les hommes très mal et s'étonne quand elles se font engueuler. Pour parler très vulgairement, si vous voulez, évidemment, elles se font engueuler. Bon, moi j'étais Desmarre porte-plainte parce que soi-disant elle s'est fait agresser. Moi je suis un témoin direct, j'étais à 1 mètre d'elle, J'ai pas écouté d'ailleurs hein, ce qu'ils se sont dit, ça me regardait pas, je parlais avec... Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude du vice-président à l'agriculture de la région Bretagne n'avait rien de... n'avait rien de menaçant, je veux dire. Mais Madame Desmarres, elle aime pas qu'on la conteste, alors elle est devenue toute blanche, hein, d'une élégante couleur ivoire, et après, elle était fâchée, évidemment, et elle a été portée plainte parce qu'on lui a parlé comme on parlait à un homme, voilà. Arrête de me parler comme ça, etc. Enfin, je pense qu'il lui a dit, peu importe. Mais bon, finalement, Madame Desmarres récolte ce qu'elle sème. Hein. Voilà.
On est quand même dans quelque chose de très tendu. On avait l'habitude dans l'hémicycle régional de ne pas voir ce qui se passe toujours dans l'hémicycle national. À l'Assemblée nationale, c'est souvent assez fort. Les débats sont parfois très virils. On avait l'impression que dans l'Assemblée bretonne, c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus consensuel. Et on s'aperçoit finalement que non.
Peut-être que c'était plus consensuel, mais maintenant, ça ne l'est plus. Mmh. Et donc, il va falloir quand même que... l'exécutif régional nous écoute.
Il y a un manque d'écoute, selon vous.
Il y a un manque d'écoute. Non, c'est un manque d'écoute extraordinaire, si vous voulez. Prenons le cas de ce dossier Algues Vertes, par exemple. Hein. Quand je suis devenu conseiller régional, à la première plénière, ou à la deuxième, bon, 10 jours après, j'ai demandé que, pour que nous ayons une information complète sur les Algues Vertes, on reçoive... les gens de la Cour des comptes pour avoir un rendu, voilà, du rapport, plutôt qu'un rendu par le vice-président ou la vice-présidente machin qui raconte des salades. Enfin, je voulais qu'on entende directement la Cour des comptes nous dire ce qu'il en était. Il a fallu un an pour que nous recevions la Cour des comptes. Un an. Et à la séance précédente, il avait fallu que je dise, je ne sais plus comment s'appelle cette fille, Delphine, machin, là, que je lui dise, écoutez, madame, si ça vous embête d'organiser ça avec la Cour des comptes, on va le faire, nous, on va leur demander, si vous voulez, c'est pas compliqué. Et pour vous donner un deuxième exemple, toujours sur les algues vertes, hein, moi, j'ai écrit au mois de juillet au vice-président de l'agriculture en lui disant, mon cher ami, etc., j'aimerais bien qu'on puisse se parler des algues vertes, je suis joignable à tel numéro. Il ne m'a jamais répondu. Et il ne m'a jamais répondu. Là, il nous balance un dossier qui est ni fait ni à faire. Et évidemment, je suis censé voter pour le dossier que ce monsieur a préparé dans son bureau. Eh ben non. Voilà.
Est-ce que le fait d'être étiqueté Rassemblement National, ça vous met, pardon de le dire comme ça un peu crûment, mais à la marge?
Ben, c'est la bonne marge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est un peu différent. On a... un programme différent et on veut l'appliquer, mais c'est pas pour ça qu'on va, on n'est pas sérieux. On est extrêmement sérieux sur les dossiers qu'on nous montre. Moi, ça me dérange pas d'être étiqueté. Je dois vous dire, je pense avoir des copains à peu près dans tous les groupes, c'est-à-dire des gens avec qui je peux parler. S'il y a des gens qui ne veulent pas me parler parce que j'ai une étiquette RN, bah qui me parle pas, ça me dérange pas, vous voyez. Mais tant que j'aurai des gens dans tous les groupes avec lesquels je pourrai parler, je pense qu'on pourra travailler.
On va devoir s'arrêter là, parce que le temps court, et puis là allez, il nous reste 2 petites minutes. J'aurais voulu vous entendre aussi sur le fait qu'aujourd'hui, dès que le Rassemblement National sort, vous évoquiez tout à l'heure la visite de Jordan Bardella, on a les Antifa, on a une protestation. Est-ce que c'est lié aussi à l'actualité un peu plus internationale, où on voit par exemple en Italie un parti qui est proche du vôtre, qui arrive au pouvoir?
Est-ce que... la poussée des souverainistes en Europe, elle est, je pense, un peu inexorable. Elle est due aussi au fait que l'Europe se conduit mal et a des ambitions fédéralistes qui ne sont pas probablement l'ambition des citoyens qui la composent. Et donc, la poussée souverainiste, elle existe. Alors, il y a des antifas, évidemment, si on leur explique à tous que M. Bardella ou M. Machin va venir tel jour à telle heure et qui sont les bienvenus. Bon, il y a peut-être aussi un problème de maintien de l'ordre. Peut-être que la préfecture n'a pas été prudente. J'en sais rien, je connais pas assez le dossier, je n'étais pas sur le quai. Mais je sais quand même que le préfet de région a essayé de faire repartir M. Bardella, vous voyez. Je pense que ce n'est pas convenable. Je crois que la République est quand même responsable du maintien de l'ordre.
Voilà, maintenir la démocratie.
On est en démocratie, maintien de l'ordre. Voilà.
Merci d'être venu, Florent de Kersauzon.
C'est un grand plaisir.
Au micro de Bretagne 5 pour vous y exprimer avec le franc-parler.
Comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression d'aller à la pêche en me levant si tôt.
et avec le franc-parler qu'on vous connaît, bien entendu, Florent de Kersauzon, conseiller régional de Bretagne dans le groupe Rassemblement National, également membre de la commission Climat, Transition et Biodiversité. On a parlé des algues vertes ce matin, dossier que l'on va laisser ouvert parce qu'il y aura encore beaucoup
on en reparlera, de
choses à dire. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous à Quessoy depuis votre Morbihan natal, je dois le préciser. Merci beaucoup et très belle journée.
Merci messieurs.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.